Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette avant-dernière conférence KS de notre année universitaire. Il y en aura une prochaine, je vous donnerai la date tout à l'heure, au mois de juin. Et je voudrais d'abord remercier en notre nom à tous Michel Agier de venir nous parler d'un problème récurrent qui est celui de l'autre et de l'hôte. La première fois que Michel m'a parlé du titre, j'avais compris que son titre c'était « L'autre est-il un étranger ?» ou « L'étranger est-il un autre comme les autres ?» Bon, mais la proposition qu'il a formulée était beaucoup plus élégante. « L'étranger est-il un hôte comme les autres ?» Mais en même temps, on peut avoir cette question subliminal de savoir qui est l'autre et qui est proche de soi. Voilà, merci Michel.
Merci à vous tous pour cette invitation. Je suis très heureux d'être là. J'espère que la reprise de ces conférences du KS va continuer, se poursuivre. Je pense que pour les chercheurs, c'est un plaisir, ça fait partie du travail, mais c'est aussi un plaisir de présenter notre travail à des personnes qui en assurent en général toutes les conditions sociales, économiques, matérielles pour que ça se fasse, pour que ça marche. Et donc, c'est aussi montrer que, les sciences sociales sont des disciplines publiques. J'ai créé, et on essaye de tenir, bien que ce soit pas du tout dans l'air du temps, mais j'ai créé l'an dernier une revue qui est publiée au PUF qui s'appelle Monde commun des anthropologues dans la cité et dont le premier intitulé, mais l'éditeur n'en a pas voulu, il a dit vous vendrez rien avec ce nom-là, c'était Revue d'anthropologie publique. Bon, bref, donc on a enlevé Revue d'anthropologie publique, mais ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle de l'anthropologie publique, c'est-à-dire effectivement, on fait de la science sociale, mais on a comme principe de la rendre publique, ce qui implique ou de la faire publiquement, c'est-à-dire de collaborer aussi avec les gens, ça c'est naturel, de collaborer avec les gens avec qui on fait ses recherches, auprès de qui, avec qui on fait ses recherches. Donc les enquêtés sont un peu informateurs, comme on dit dans le langage traditionnel de l'ethnologie, mais ils sont un peu aussi enquêteurs, c'est-à-dire enquêteurs sur eux-mêmes. Et donc, ça implique par exemple de travailler beaucoup avec le monde associatif et de tirer de l'expérience des personnes impliquées dans le monde associatif, de tirer de leur expérience, de tirer un savoir en partant de l'hypothèse que le savoir social est un peu éparpillé dans la société et que notre rôle, c'est à la fois de nous en nourrir, d'en nourrir notre réflexion et de rendre le résultat de cette réflexion. Donc de faire quelque chose qui est public, qui n'est ni le chercheur expert, ni le chercheur militant. C'est autre chose. Le chercheur expert, c'est celui qui travaille pour des organismes de pouvoir, qui demande au chercheur de lui répondre, de répondre à telle question. Donc dans tous ces sujets dont je traite, il est assez fréquent que des grandes organisations internationales ou des organisations humanitaires s'adressent aux anthropologues pour leur demander, dites-nous quels sont les blocages culturels, pourquoi les gens ne veulent pas faire ce qu'on leur dit de faire pour leur bien, et ne pas prendre tel médicament, ou ne pas se regrouper dans tel camp, ou ne pas faire ceci ou cela. Et donc, dans ce cas, c'est un usage, comme ça, l'anthropologue serait l'expert qui allait répondre à la question de l'organisme ou de l'organisation qui a un certain pouvoir sur les gens, donc ça n'est pas ça, ce qu'on fait. Ça n'est pas non plus le chercheur militant qui se met au service d'une cause, parce qu'il y a toujours, quand il y a une cause, il y a toujours la critique de la cause. Et il y a toujours la critique de la critique de la cause. Et donc, on est plutôt là pour aiguiser ce regard critique ou pour aiguiser, en fait, cette idée qu'il est toujours nécessaire de se décentrer de ce qu'on est en train de vivre, qu'il est toujours nécessaire de créer un écart entre ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on peut se représenter comme étant la meilleure vie possible, l'avenir possible, le ce qui doit exister, etc. Et donc notre rôle, quoi, d'anthropologue public, comme on dit, c'est de susciter simplement cet écart, de suggérer la nécessité de cet écart. Alors c'est le cas en particulier sur tout ce qui se fait sur les questions de l'hospitalité, et c'est pour ça donc que j'ai voulu renverser un petit peu les choses. L'étranger est-il un autre comme les autres? Un autre anthropologue dans les années 60 avait écrit Comment fait-on de l'étranger un hôte ? Et donc là encore, ça veut dire que ça n'est pas donné d'une manière absolue. Et mon premier point de démarrage, qui commence par un écart critique, consiste à me démarquer un peu des affirmations trop faciles et que j'attribue à quelqu'un qui est de cette école aussi, qui était de cette école, qui est Jacques Derrida, et qui a fait de nombreuses déclarations très engagées, très belles, avec des beaux textes, notamment donc dans l'année 95, où il avait donné un texte pour une conférence qui était la conférence des villes-refuges. Et ce texte a été publié ensuite, ça s'est appelé « Cosmopolite de tous les pays, encore un effort ». Le titre est pas mal. Mais dans ce texte, et après il l'a repris dans d'autres textes, notamment de l'hospitalité avec du Formentel et d'autres textes encore, il a repris cette idée que nous avons besoin de dire que l'hospitalité est inconditionnelle et que l'étranger est un absolu. Et tout ça pour dire qu'il faut que l'injonction existe. Accueillez, ouvrez la maison, donnez ce que vous avez. Il l'écrit comme ça. Alors, moi, j'ai été, dans mes premières années, j'ai été étudiant en philo avant d'être en sciences sociales puis en anthropologie. Et je sais très bien que les philosophes s'autorisent ou sont autorisés à dire un peu n'importe quoi parce que ça fait penser, quoi. Ce qui importe, c'est que ça fasse penser. Ça provoque le débat, ça provoque l'interrogation. Mais du coup, je me suis dit non, mais c'est pas possible. L'ethnologue, l'ethnographe, l'anthropologue, c'est tout l'inverse. Il part de ce qu'il voit dans l'expérience, de ce qu'il voit sur le terrain, comme on dit, et il dit, bon, ben là, il y a quelque chose qui est impossible. Il y a des gens qui n'ont pas de chambre, ils n'ont pas d'endroit où ils vont pouvoir accueillir un étranger. Il faut de la place, il faut de l'argent. Il faut de l'argent aussi pour le consacrer un peu à, ben, ne serait-ce que rajouter une assiette. Et donc, il faut voir comment ça se passe réellement, concrètement. Et donc, je me suis comme ça un petit peu démarqué, ou en tout cas j'ai pris appui quand même, puisque j'aime beaucoup ce qu'écrit Jacques Derrida, mais j'ai pris appui sur mon désaccord avec cette affirmation accueillir l'étranger comme un absolu de manière inconditionnelle. J'ai pris appui sur ce désaccord pour me dire bon, ben, comment on peut faire dans nos sociétés pour que le mot d'hospitalité corresponde à quelque chose à un moment où, justement, tout le monde en parle, mais on ne sait pas très bien ce que c'est. Donc on s'est mis à parler beaucoup publiquement et polémiquement d'hospitalité. Là, dans l'année 2015, on va dire, on est dans une séquence, quoi, qui, en Europe, commence avec quelque chose qu'en 2015, on a appelé la crise migratoire. En fait, tous les démographes, les géographes, les économistes, les spécialistes de relations internationales vous diront que non, ça n'a pas commencé en 2015. Il y a des phénomènes de mobilité qui sont bien plus anciens. Mais voilà, il y a eu, en 2015, il y a eu un pic, comme ça, assez important, à un moment donné, dans un espace donné, entre voilà, l'Est de l'Europe, l'Est et le Sud de l'Europe. Et à ce moment-là est venue cette polémique, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, etc. Et puis des gens, contre ça, voulant réagir, en disant non, on ne veut pas vous laisser dire que le peuple est xénophobe, par exemple, nous, on n'est pas xénophobe, on va faire quelque chose. Et donc faire quelque chose, c'est aider les gens qui sont dans la rue, leur donner de la nourriture et à un moment les accueillir, quoi, les accueillir chez soi, leur faire une place chez soi. Mais c'est vrai qu'on a fait ça, comme une réaction. On s'est mis à parler d'hospitalité et à pratiquer l'hospitalité comme une réaction à l'inhospitalité. Donc il n'y a pas d'hospitalité sans inhospitalité, ça c'est le premier point. Et si on parle d'inhospitalité, alors on peut revenir un petit peu en arrière, vers le milieu, la première moitié des années 90, et on se rend compte qu'on a eu à ce moment-là déjà des mouvements d'opinion et des mouvements dans la recherche, qui se sont intéressés à ces questions d'hospitalité. Il y a eu des collègues dont certains étant de l'école ont publié en 97 un ouvrage collectif qui s'appelait Les lois de l'inhospitalité. Didier Fassin, Alain Maurice et Catherine Kiminal avaient organisé. Et donc en fait, il reprenait ce texte de 1966, de Julian Pete Rivers, qui est un texte qui s'appelle « La loi de l'hospitalité », dont je vous reparlerai un petit peu. Et là, il jouait un petit peu sur les mots, quoi. Il disait « Voilà, ça, c'est les lois de l'inhospitalité ». Mais en fait, il parlait pas du tout d'hospitalité. Il parlait de ce que nous dit le mot d'inhospitalité. Ça nous disait quelque chose à propos des politiques migratoires en Europe, quoi. Ça a redémarré un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'on a parlé, un petit peu en s'adressant à l'État, en disant mais comment est-ce qu'on peut être inhospitalier à ce point, laisser des gens dans la rue, etc. Donc c'est l'indignation, la révolte, le mouvement politique d'opposition à un État qu'on a considéré inhospitalier pour dire, donc le mot servait à dire que nous n'avons pas de politique d'accueil pour les gens qui circulent dans des conditions plus ou moins légales et illégales et nous avons des systèmes de production de l'illégalité, comme on dit, c'est-à-dire que c'est toujours l'État qui décide si quelqu'un est légal ou illégal. Donc ça fait partie du pouvoir de l'État de dire que une personne sera traitée comme étrangère et donc comme irrégulière parce que elle arrive à la frontière sans avoir un visa, par exemple. Mais vous et moi, nous arrivons à la frontière de, je crois, 175 pays dans le monde sans avoir de visa. Et nous ne sommes pas renvoyés. Et donc il y a une certaine inégalité là-dedans, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent en particulier de pays africains, et d'autres aussi d'Asie centrale ou d'Asie du Sud-Est, qui peuvent aller dans 15 pays comme ça, dans 15 pays dans lesquels ils peuvent arriver sans avoir de visa. Voilà. Nous, c'est à peu près 175. Donc, vous voyez, nous, je veux dire, les Français, quoi. Et donc, vous voyez, ne serait-ce que ce point-là, qui est un point qui paraît comme une évidence de être légal ou être illégal, c'est quelque chose qui est très, très relatif, quoi. Un État décide que telle ou telle personne sera légale ou illégale. Alors, dans les années 90 encore, on a à la fois eu ces protestations. Donc c'était au moment de la guerre des Balkans, au moment de la crise de la des génocides dans l'Afrique des Grands Lacs et un certain nombre de mouvements de population qui ont fait qu'en Europe, on s'est déjà posé cette question de l'arrivée et de l'accueil de migrants dans des situations plus ou moins régulières. C'est à ce moment-là aussi qu'a été lancé un programme de recherche soutenu par la Maison des sciences de l'homme, par Anne Gottman, qui a regroupé comme ça une bonne dizaine de chercheurs autour de ce thème de l'hospitalité en France. Et il y a eu un certain nombre de publications, et notamment un gros ouvrage au début des années 2000, qui était tiré de cette période où on commençait à avoir des enquêtes de sociologues, surtout à ce moment-là, sur des conditions de l'accueil dans les villes et chez les gens. Alors, ces revenus-là, 2015 a été, je disais, c'était une année qui, même si sur le plan démographique, etc., ça n'est pas aussi incroyable. Quand on regarde les courbes, en fait, l'année 2013, 2014, 2015, avec la crise au Proche-Orient, les printemps arabes, etc., il y a eu beaucoup de mouvements de population. Il y a ce qui vient de nombreux conflits, guerres, situations de pauvreté qui sont en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique orientale, qui aussi amènent régulièrement des gens qui sont dans des conditions précaires, éventuellement sans papier ou sans visa. Mais effectivement, donc l'année 2015 a été un peu une année charnière, et à ce moment-là, beaucoup de gens se sont mis à parler d'hospitalité, et puis beaucoup de programmes de recherche ont été lancés, notamment parce que le ministère de la Recherche et l'Agence nationale de la Recherche ont lancé un programme qu'ils ont appelé Flash Asile, qui était un programme qui allait sélectionner des projets de recherche sur les questions de migration, accueil, hospitalité, etc. Alors c'est comme ça qu'a pu se développer un programme de recherche qu'on a appelé Babels, avec des petites publications, des petits livres réguliers qui font le point sur différentes questions. Mais donc je vais moins vous parler, on pourra en reparler après si vous voulez, je vais moins vous parler du programme Babels et plutôt de ce qu'ont été mes enquêtes et mes réflexions, on va dire, sur la question de l'hospitalité. Donc, point de départ, si on peut dire, dans l'hospitalité aujourd'hui, c'est une relation à trois qui se met en œuvre, les migrants, notre État et nous. C'est parce que on a parlé de crise de l'accueil, c'est parce qu'on a parlé d'inhospitalité qu'on s'est mis à parler et à pratiquer l'hospitalité. Alors, dire que la relation avec l'État est importante, c'est important de le dire, parce que c'est pas partout pareil, c'est-à-dire que nous sommes dans un pays qui croit en l'État, qui donne à l'idée de citoyenneté une place primordiale. Ça n'est pas partout pareil. Au Liban, par exemple, qui, sur 4 millions d'habitants, a accueilli 1 million ou un peu plus de réfugiés syriens, donc le pays voisin, l'État a une place mineure. Une place mineure, et elle a une place... L'État, en tant que tel, est plutôt vu de manière négative. C'est-à-dire que l'État n'apporte pas grand-chose aux gens qui ont plutôt envie d'organiser leur existence sans l'État. Et il y a beaucoup de pays dans le monde comme ça. Et c'est ça qui doit être su. Je ne veux pas faire du relativisme des anthropologues, comme on reproche aux anthropologues, mais simplement dire ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où on n'attend pas grand-chose de l'État. Et où donc la manière dont se conçoit la relation avec l'autre, l'hospitalité, se fait sans cette médiation, sans cette présence réelle ou symbolique de l'État. Dans de nombreux pays africains, l'État a été vécu historiquement et est vécu comme un poids, une contrainte, police, corruption, il y a beaucoup d'études là-dessus, mais l'état social, comme on dit, est très peu présent. Du point de vue de l'éducation, il y a très peu de choses de faites. L'organisation générale des territoires, l'organisation des villes, est très peu mise à la charge de l'État. Et donc souvent, les gens prennent l'État comme une contrainte qu'on leur impose. Bertrand Badi, le professeur à Sciences Po, a parlé à propos de l'Afrique d'État importé. Vous voyez, l'État est importé comme quelque chose en plus qui n'a pas été généré par les sociétés elles-mêmes, comme on le dit en Europe. Alors, je ne vais pas faire l'histoire de l'État. Il y a d'autres collègues qui le font très bien. Mais simplement, il faut savoir que pour nous, il peut y avoir un peu de malentendu quand on parle d'hospitalité, parce que souvent, on met ensemble le mot hospitalité qui, vous le verrez, a une définition très anthropologique, micro-sociologique, si vous voulez, avec quelque chose qui relève des politiques publiques de l'État. Et donc les politiques publiques d'accueil, les politiques publiques du droit des étrangers, etc. Donc le point de départ, on peut dire, c'est cette question de ce que nous reprochons à notre État de ne pas faire, ou bien évidemment, il a été dit dans les commentaires qui étaient faits que le peuple en France ne veut pas que l'État consacre des dépenses publiques pour les étrangers. Par exemple, en disant « ben non, ils sont pas de notre territoire, on les veut pas ». Et donc on a attribué au peuple comme ça une volonté qui aurait été de protéger le territoire et de fermer le territoire et d'empêcher la circulation des personnes. Alors, donc cette présence de l'État est importante et donc la question qui se pose à l'égard de faire quelque chose à l'égard des migrants, à l'égard des étrangers, etc., par révolte, par solidarité, par compassion, etc., débouche sur quelque chose qui est en fait très nouveau pour nous, contemporains de ce qui est en train de se passer, mais qui est très ancien dans la vie des sociétés, qui est donc cette interaction, comme on dit, une interaction de face à face qu'on appelle l'hospitalité. Il y a deux hôtes, il y a un hôte qui reçoit un autre hôte, et tout ça dans un système social, et notamment un système familial et une organisation domestique qui, aujourd'hui, ici, ne le prévoit plus, n'a plus cette hospitalité comme forme sociale naturelle qui existe sans qu'on se pose de problème. Alors, dans l'ouvrage que j'ai fait qui s'appelle « L'étranger qui vient repenser l'hospitalité », je pars de l'écrit d'un philosophe qui s'appelle Jean-Luc Nancy, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'intrus ». Et donc l'intrus, c'est toujours délicat parce que, vous allez voir, il nous aide à penser cet écart que je propose de penser. En parlant d'une intrusion qui est un peu inattendue dans la réflexion, qui est une grève du cœur. On lui a fait une grève du cœur à cette personne, à Jean-Luc Nancy. Et il l'a vécu comme quelque chose, effectivement, qui lui a transformé sa vie, mais qui était une intrusion dans son corps. Et cette intrusion l'a dérangé, et en même temps, ça lui a sauvé la vie. Et donc il a écrit des choses où, à un moment donné, on ne sait plus s'il parle de notre sujet, comment traite-t-on l'étranger, comme un autre, etc., ou bien s'il parle exactement de ce qui était en train de lui arriver. Donc je vais vous lire un passage de son ouvrage, « L'intrus ». Il faut qu'il y ait de l'intrus dans l'étranger, sans quoi il perd son étrangeté. s'il a déjà droit d'entrée et de séjour, s'il est attendu et reçu sans que rien de lui reste hors d'attente ni hors d'accueil, il n'est plus l'intrus, mais il n'est plus non plus l'étranger. Aussi n'est-il ni logiquement recevable, ni éthiquement admissible d'exclure toute intrusion dans la venue de l'étranger. Une fois qu'il est là, s'il reste étranger, aussi longtemps qu'il le reste, sa venue ne cesse pas. Il continue à venir, et elle ne cesse pas d'être à quelque égard une intrusion, un dérangement, un trouble dans l'intimité. C'est cela qu'il s'agit de penser et donc de pratiquer. Sinon, l'étrangeté de l'étranger est résorbée avant qu'il ait franchi le seuil. Il ne s'agit plus d'elle. Accueillir l'étranger, il faut bien que ce soit aussi éprouver son intrusion. Le plus souvent, on ne veut pas l'admettre. Cette correction morale suppose qu'on reçoit l'étranger en effaçant sur le seuil son étrangeté. Elle veut donc qu'on ne l'ait point reçu. Mais l'étranger insiste et fait intrusion. C'est cela qui n'est pas facile à recevoir, ni peut-être à concevoir. Donc c'est cette idée-là, c'est d'ailleurs la première chose, c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a un étranger. Il ne faut pas dire non, personne n'est étranger. Bien sûr qu'il y a de nombreuses manières d'être étranger. J'essaye aussi, à la fin de l'ouvrage, de conclure là-dessus, mais comment est-on étranger? On est étranger culturellement, c'est le stranger des Anglais, parce qu'on ne parle pas la même langue, et donc il faut apprendre une langue, c'est un travail, ça prend des mois ou des années pour devenir un peu moins étranger. On est étranger en droit, c'est le foreigner, celui qui est d'un autre territoire, on franchit un territoire. Ça ne veut pas dire quand on est étranger qu'on n'a pas de droits. On peut avoir quelques droits. Vous savez, quand vous êtes européen non français, ben vous avez pas mal de droits qui, finalement, vous différencient très peu des Français. Et puis, quand vous êtes un étranger non communautaire, comme on dit, un drôle de terme, parce que qui n'est pas de la communauté européenne, vous êtes un peu plus étranger. C'est pour ça qu'il y a tout ce débat qui est permanent en France, sur le droit de vote des étrangers non communautaires. Les étrangers communautaires ont le droit de voter aux élections municipales. Mais les étrangers non communautaires n'ont pas le droit de voter. Ce qui veut dire qu'en termes de foreigner, en termes d'extranéité, comme on dit, ils sont très loin comme étrangers. On pourrait les rapprocher un peu en leur donnant un peu plus de droits, un peu moins d'éloignement dans l'extranéité, tout en restant étrangers, de se rapprocher de la citoyenneté. Ce rapport entre étranger et citoyenneté mesure le degré d'étrangeté de l'étranger du point de vue des droits. Puis il y a l'outsider de la langue anglaise qui est un petit peu qui est l'extériorité, c'est-à-dire comment est-on extérieur? Ben, on est dans des lieux, on vient de dehors quand on est étranger. Bon, ben, le premier étranger, c'est celui qui vient de dehors. Mais des fois, on ne trouve pas de place. Et donc, on ne trouve pas de place. D'ailleurs, on est dans... un étranger qui est mis dans un camp ou dans un centre de rétention, c'est comme s'il était gardé dehors. On ne le laisse pas entrer dans l'espace public. Il ne peut pas circuler dans l'espace public ordinaire. Et donc là, il y a une sorte d'extériorité. Donc il ne s'agit pas de dire « Ah non, il n'y a pas d'étrangers dans le monde, nous sommes tous humains, etc. » Ben, c'est très bien, oui, nous sommes tous humains, mais le monde est partagé entre différents niveaux comme ça d'étrangeté, et c'est de ça dont nous devons nous occuper. C'est quel est le rapport d'étrangeté, ou on dit aussi d'altérité, qui a entre les humains. Alors, l'hospitalité est donc ce qui est supposé faire de l'étranger un hôte. Et il se trouve que, en France en particulier, ce qu'on a pu voir en menant toute une enquête avec le programme Babels, et notamment une enquête dans la ville de Paris, soutenue par la ville de Paris, en fonction d'un accord entre la ville de Paris et le HESS, on a pu mener une enquête avec un post-doc dans le cadre du programme Babels sur ce qu'on appelle l'hospitalité privée, c'est-à-dire les gens qui accueillent chez eux des, des migrants et la relation qui s'établit comme ça entre hébergeurs et hébergés, ou entre accueillants et accueillis, comme on le dit. Alors ce dont on s'est rendu compte, c'est que cette hospitalité transforme les sociétés d'accueil et façonne différemment le lien à l'étranger, et toutes les pratiques domestiques, familiales, individuelles, d'accueil de l'étranger ont toutes besoin d'un cadre social, d'un cadre symbolique, politique plus large, capable de rendre possible cette relation, de lui donner un sens et une portée qui inclut et dépasse tous les gestes particuliers d'accueil et d'ouverture. Alors je vais préciser un petit peu cela en repartant finalement du lieu où se place l'hospitalité dans les systèmes sociaux où on la pratique. La première chose, et plusieurs auteurs expliquent ça, l'hospitalité consiste à dire « j'accueille chez moi qui je veux ». Ça, c'est important de dire « j'accueille chez moi qui je veux ». L'État ne va pas mettre son nez dans mon espace privé. Donc j'accueille chez moi ce qui je veux. Ça peut être, effectivement, ça permet un petit peu de dire quelque chose à Jacques Derrida ou à toutes les personnes qui défendent l'idée d'une inconditionnalité de l'hospitalité. Mais là, justement, les enquêtes des anthropologues, et notamment sur la parenté, sur l'organisation des maisons, des maisonnées, la vie domestique, se rendent compte que les gens qu'on accueille chez soi, quand on dit « j'accueille chez moi qui je veux », ben, en général, ce sont d'abord des parents, ce sont des proches, ce sont des gens avec qui on a une proximité, une certaine proximité. Une anthropologue de l'Antiquité a beaucoup travaillé avec un des labos de l'école qui s'appelle l'Anima, Florence Dupont, a défendu cette idée-là. C'est-à-dire que l'autre, c'est loin d'être l'étranger, l'autre, c'est d'abord presque le même. C'est presque le même. J'accueille chez moi mes enfants, s'ils sont partis, ils vont revenir. Ben, évidemment, je les accueille chez moi. Des cousins, des cousines, des tantes, des oncles, ou bien, si je ne m'entends pas avec eux, je leur dirais plutôt d'aller à l'hôtel. Donc, il y a un moment où la parenté n'est pas suffisante pour être la sphère hospitalière, la sphère de l'hospitalité. Il faut quelque chose d'autre. Il faut, Bourdieu parlait de parenté pratique. Il ne faut pas seulement de la parenté sur le papier, il faut de la parenté pratique, c'est-à-dire des gens avec qui on a effectivement des relations. Et donc, ben oui, on va les accueillir à la maison. Mais comment on fait après? Comment on fait pour accueillir des gens qu'on ne connaît pas? Eh bien, on fait du familier qui n'est plus familial. Et si vous regardez toutes les personnes qui vous disent « j'accueille chez moi de manière inconditionnelle », elles accueillent chez elles de manière inconditionnelle, mais l'étranger leur a été amené par quelqu'un. L'étranger vient d'une association, vient d'un même monde religieux. Hein, le secours catholique a tout un programme comme ça d'accueil chez les gens à domicile. Et donc j'ai eu un échange comme ça avec quelqu'un au secours catholique où je parlais de ça. Il dit « Ah non, moi j'accueille inconditionnellement ». Je dis « Bah oui, mais c'est toujours quelqu'un du secours catholique qui vous amène la personne que vous allez accueillir, même si la personne, vous ne la connaissez pas, elle vous est amenée par quelqu'un de confiance. » Et donc, moi, j'appelle ça les sphères de confiance. Il y a des sphères de confiance qui font que on élargit la sphère de confiance autour de ce qui nous est familial, le proche, le domestique, vers le familier, ou bien plus largement vers des réseaux, des associations, etc. Alors je reviens à l'enquête, et on s'est aperçu que depuis 2015 jusqu'à 2018, il s'est créé 1200 associations, collectifs, groupes, etc., prenant en charge l'accueil des migrants en général, et parmi elles 250 ou 300 étaient spécifiquement consacré à l'accueil à domicile des migrants. Ce qui veut dire que, première condition, si je puis dire, première condition, à la fois la condition, au sens dans quelles conditions vous faites ça, et la condition, c'est à quelles conditions vous le faites, eh bien, c'est qu'il y ait un collectif, qu'il y ait une forme de sphère de confiance qui soit derrière. Alors ça me reporte, si vous voulez, et là j'aurai pas le temps, mais c'est quelque chose où effectivement la littérature anthropologique a pas mal d'enquêtes là-dessus. Et puis moi j'ai enquêté mon premier terrain et ma thèse de doctorat que j'ai faite à l'EHESS était là-dessus. J'ai travaillé au Togo, à Lomé, sur des groupes de migrants et commerçants étrangers qui étaient logés, qui se retrouvaient dans un quartier d'étrangers. Et il y avait dans leur organisation sociale, il y avait tout un, on dirait, un dispositif qui permettait d'accueillir et de faire circuler les gens. Et donc je me suis fondé sur ces enquêtes-là pour regarder ce qui était en train de se passer en Europe. Parce que les gens qui accueillaient, c'était des chefs de maison, comme on dit, des maïguida. Les maïguida, c'est aussi les chefs de maison, les patrons, les gens importants. Voilà. Et on disait, ils sont maïguida et ils sont maïkarbanbaki, celui qui reçoit les étrangers. Donc, c'est des personnages importants. C'est des personnages importants dans le milieu social là, dont on parle. C'est-à-dire que recevoir les étrangers, c'est une marque de statut, c'est une marque une marque symbolique, une marque sociale, un capital social et un capital symbolique, on dirait, fait qu'on reçoit des étrangers. Ce qui veut dire aussi que les maisons, ou plus exactement les concessions, comme on dit en Afrique, les cours, dans les cours, eh ben, il y a toujours une case, il y a toujours une chambre pour l'étranger. Alors il y a d'autres sociétés, en comparant chez les Hazaras en Afghanistan, il y a un collègue qui est venu présenter son travail à mon séminaire, Alessandro Monsuti, qui a travaillé en Afghanistan, qui dit dans la tradition Hazara, effectivement, il y a toujours une chambre qui est à côté de l'entrée, qui est la chambre pour l'invité, qui est la chambre pour les étrangers, qui peuvent rester, comme dans la tradition arabe de l'hospitalité, on parle en général de 3 jours. Alors, oui, tout ça, c'est pour très peu de jours, toute cette polémique, tous ces débats. On a comme ça des temporalités, on a des temporalités qui peuvent être très précises. Alors, dans le cas des Aoussa de Lomé, sur lesquels j'ai travaillé, ça pouvait se rallonger assez indéfiniment, en fait, puisque ça crée une relation. Au bout d'un moment, ça crée une relation, c'est-à-dire que la personne qui était installée là devenait reconnaissable dans la société qui l'entourait par la référence à son logeur, si vous voulez. Et de son côté, son logeur l'appelait Yaro. Yaro, ça veut dire l'enfant. Et alors, c'est très intéressant, parce qu'on peut l'appeler Yaro, l'enfant, quel que soit l'âge de l'hôte, même si c'était un homme. En général, c'était les hommes qui étaient circulants, comme ça, adultes, pas du tout enfants. Mais la relation était une relation où l'un était le maître, le maïguida, le maître de maison, et l'autre était l'enfant. C'était intéressant pour moi d'aller à l'université Paris 8 l'an dernier. Vous savez, il y a eu une occupation de l'université par des migrants soutenus par des étudiants et des enseignants. Et ils ont occupé une partie d'un amphi à Paris 8 et puis après certaines salles de séminaire. Donc il y a eu une soirée, il y a eu un colloque comme ça qui était de discussion et de soutien en même temps. Et à la fin de la soirée, finalement, Quelqu'un a dit peut-être qu'on pourrait donner la parole aux migrants qui sont là. Donc, on a donné la parole. Et il y en a un qui est venu parler. Et puis, ça m'a beaucoup plu parce qu'il dit « Et d'abord, nous tenons à vous remercier. Vous nous avez traités comme vos enfants. » Mais nous ne sommes pas contents. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Et donc, etc. Il a commencé à dire tout un tas de choses d'une prise de parole de quelqu'un qui a quelque chose à dire, ce qu'on oublie en général. Mais là, la première chose, c'est qu'il a utilisé ce terme d'enfant qui, pour moi, faisait écho à mon yaro, qui est dans la relation d'hospitalité, celui qui est accueilli, on lui attribue quoi ce terme d'enfant. Alors, ça veut dire aussi, alors évidemment, et là je ne vais pas trop développer, mais on sait bien dans tous les mouvements, toute cette mobilisation qui se passe en Europe ces dernières années jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a évidemment beaucoup de, certains disent de paternalisme, on pourrait dire de maternalisme, parce que ce sont beaucoup des femmes qui accueillent, qui s'occupent de l'accueil, et qui, parce que les migrants sont souvent des hommes jeunes, ou des fois des mineurs, mais pas seulement, des jeunes majeurs, ont tendance à les infantiliser, comme on dit. Et évidemment, pour moi, ça n'est pas du tout surprenant. Je dis, ben non, c'est quelque chose qui est contenu dans la relation d'hospitalité. Et je parlais tout à l'heure des gens qui avaient mené, au milieu des années 90, des recherches là-dessus, et dont cette sociologue Anne Gottman, qui disait que c'est une relation asymétrique. De même, Julian Pitt-River, dans les années 60, dans la loi de l'hospitalité, un petit article qui a été publié dans les temps modernes en 66, il explique « L'hospitalité, c'est une relation dans laquelle on ne peut pas être égaux au même moment, au même endroit. » C'est-à-dire qu'on est forcément dans une relation hiérarchique. L'un accueille, l'autre est accueilli, et l'un décide finalement du sort de l'autre. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. On pourra reparler de ça, si vous voulez, avec quelques questions et en débattre. Mais cette question de l'asymétrie, de l'inégalité de conditions de l'accueilli et de l'accueillant, aujourd'hui, dans tous les mouvements de gens, dans le monde associatif, tous les collectifs qui accompagnent cette relation d'hospitalité qui s'est beaucoup développée là depuis 2015 en France, c'est une question qui est très importante et bien évidemment qui est difficile à résoudre parce que on n'a pas le cadre social. Quand je parle des Haoussa ou des Hazara, je peux vous parler aussi des Inuits, des sociétés dans lesquelles l'hospitalité a une place, on va dire, je ne peux pas dire naturelle, mais enfin a une place traditionnelle dans la structure sociale, et donc on n'a pas trop de questions à se poser. Oui, bien sûr, l'hospitalité est une relation inégale, on ne va pas prétendre qu'elle ne l'est pas. Et donc le traitement est différent, il y a un espace différent qui n'est pas forcément l'espace le plus intime, alors que en France, aujourd'hui, les gens veulent tellement faire un peu à l'arrache, comme on dit, on n'a plus de place dans les maisons, on veut quand même être hospitalier, on trouve tout un tas de solutions, mais on va jusqu'à donner la chambre de son fils à un migrant pour qu'il soit bien. Un Haoussa, un Maïguida de mon terrain des Haoussa ne ferait jamais ça, bien évidemment. Mais il aurait la maison qui lui permet, il a la maison qui lui permet d'accueillir l'étranger en fonction d'une règle, d'un code d'hospitalité, à sa place, et pour une durée limitée. Alors ça, on a la même chose, on a tous ces débats-là dans le monde associatif en ce moment, de savoir, par exemple, combien de temps les hébergeurs vont garder les hébergés, les accueillis. Combien de temps? Alors, il y a 4 jours minimum, 3 mois maximum, 10 jours par là, enfin, etc. Tout le monde essaye de réinventer la temporalité de l'hospitalité, où effectivement les Grecs de la Grèce antique nous disaient c'était 3 jours, la tradition arabe dit c'est 3 jours, chez les AOUSA, c'est 10 jours, mais ça peut être un peu plus, ça s'arrange, etc., etc. Donc, il y a des codes comme ça, il y a des codes particuliers où, comment, c'est comme si on était en train de les réinventer, ces codes particuliers. Et on est donc dans une situation où on réinvente des règles de l'hospitalité, bien souvent qui existent déjà, qui ont existé ou qui existent déjà ailleurs dans d'autres contextes, mais où on le fait ici à l'épreuve d'un investissement personnel très important, d'un investissement affectif, émotionnel très important. Pour conclure et pour vous laisser la parole un petit peu si vous voulez poser des questions, juste revenir sur le poids qu'ont les collectifs, les associations, etc. C'est un peu comme si à cette occasion, à l'occasion de recevoir correctement des étrangers, on réimaginait des communautés. C'est-à-dire que pour les anthropologues, c'est intéressant parce qu'on peut revoir un petit peu toute la théorie des communautés. Les communautés n'existent pas comme ça de toute éternité et elles sont surtout pas identifiables par un nom d'ethnie, par exemple. Le nom d'ethnie serait une fois pour toutes le nom d'une communauté. Non, c'est pas ça. On réinvente tous les matins une communauté. Les communautés, c'est quelque chose qui se crée dans du commun. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, comme j'évoquais, l'espèce de désajustement qu'il y a entre la forme sociale de nos familles, de nos modes de vie et de notre économie autour de familles petites, de logements petits, d'une individualisation des vies et des projections qu'on a. C'est comme si on cherchait à réajuster et à remettre de la communauté pour pouvoir accueillir des étrangers. Et c'est un peu la fonction de ces centaines d'associations et de collectifs qui ont été créés depuis 2015. Donc peut-être que le principal résultat de cette séquence qu'on a appelée la crise migratoire et qui est autour de l'accueil ou de l'hospitalité, un des principaux résultats, c'est la transformation même de notre propre société. Je vous remercie.
Est-ce que justement cette asymétrie de statut donc entre celui qui reçoit et celui qui a reçu, est-ce que c'est pas d'autant plus sensible qu'il y a une... Et puis du coup, avec les problèmes que vous évoquez, est-ce que ça viendrait pas du fait qu'il y a une dépolitisation finalement, qu'on est du côté de la morale, etc. Et puis, si on avait une analyse politique des choses, peut-être que là, il y aurait moins d'asymétrie. Enfin, on pourrait considérer l'autre. Enfin, l'autre serait de fait comme statut. Même, on pourrait presque dire qu'il y aurait un statut d'égalité, je ne sais pas, c'est peut-être pas le mot, mais enfin... Il y aurait peut-être autre chose, un autre type de relation aussi.
La réponse que j'ai, enfin, je comprends bien ce que vous dites. Moi, la réponse que j'ai, c'est que non, je ne crois pas. C'est-à-dire parce que, sans être, je ne suis pas du tout un défenseur du structuralisme, mais il y a une énergie en elle-même de la relation d'hospitalité qui, par nature, si je puis dire, c'est un peu difficile de dire ça, mais par nature ou par structure, est inégalitaire. Elle est inégalitaire. Vous ne pouvez pas... Vous recevez quelqu'un chez vous, il dépend de vous. Vous ne pouvez pas... Voilà. Et en revanche, l'autre aspect sur la dépolitisation, moi, ce que j'ai remarqué dans notre enquête, là, et puis on va le refaire parce que le septième des petits livres Babels, ça sera sur l'hospitalité, justement, avec plein de petites enquêtes dans différents endroits. En fait, on s'est aperçu, c'est un peu ce que je disais au début, on a beaucoup réagi à l'absence de réaction ou de réaction tardive des États face à une arrivée plus importante de migrants, etc., qui aurait nécessité des politiques d'accueil. Et on a constaté qu'il n'y en avait pas. Donc, il y a une réaction. Donc, des gens qui ont fait des, qui ont reçu chez eux des migrants, etc. Mais il y a aussi des gens qui, par cette action-là, même si au début elles l'ont fait par compassion, par humanité, par tout ce qu'on voudra, petit à petit ou assez vite, se sont aperçus qu'il y avait l'État en face qui les emmerdait, en gros. Et donc, vous avez deux réactions maintenant. Vous avez ceux qui, des gens qui se sont beaucoup politisés, en fait, dans cette mobilisation, parce que c'est quand même une mobilisation. Et donc, des gens qui se sont beaucoup politisés avec soit ceux qui vont protester contre l'État, soit ceux qui vont dire « Bon, ben, l'État, on n'en a rien à foutre. On va dire la tendance zadiste. On fait notre petite communauté, on fait notre politique, on décide nous-mêmes, par exemple, on accueille des gens en situation régulière ou irrégulière. Et ben, par exemple, il y a des gens qui disent « Moi, j'accueille des migrants en situation irrégulière. » Et je le dis. Donc ça, c'est fait comme un acte politique, si vous voulez. Voilà. Là, vous avez de la repolitisation dans ces cas-là.
Oui, bonjour. Moi, j'étais intéressée par ce que vous parliez de la temporalité de l'accueil. Et je me posais la question, par exemple, donc, si une famille dit « bon, très bien, on va accueillir une personne pendant 2 semaines, disons ». Mais est-ce qu'il y a eu des études sur le fait que, bon, la relation évidemment ne s'arrête pas aux 2 semaines, j'imagine qu'elle va continuer, mais en même temps, j'imagine qu'il y a énormément de demandes, et est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'angoisse, et même de la part des hôtes et des familles, sur bon, ben, nos personnes qu'on a accueillies pendant 2 semaines, avec qui on a lié des liens probablement assez forts, vont se retrouver peut-être à la rue. Voilà, je me demandais est-ce qu'il y a eu des enfin, est-ce que voilà, il y a.
Oui, je comprends. Mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un tissu associatif et de collectif qui se sont, je dirais presque professionnalisés pour gérer ce turnover. Parce que là, maintenant, ça, c'est un terme, si vous voulez, qui est très présent dans les collectifs. Par exemple, vous avez une association qui s'appelle Paris d'Exil, où les gens passent leur temps à manager 15 jours là une personne, on le met 15 jours dans une autre maison, on prend quelqu'un d'autre, on l'amène là, etc. etc. Donc il y a cette fonction-là qui est assurée par les associations et les collectifs. Mais effectivement, il y a un problème, c'est-à-dire il y a l'épuisement des hébergeurs avec un élan qui a pu être important à un moment donné, l'année 2015, et puis après c'est redescendu. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un élan qui est plus important en hiver et moins important en été, parce que c'est comme pour les SDF, on veut les héberger quand il fait froid et moins quand il fait moins froid. Il y a des fluctuations. Après, ça fait 4 ans maintenant, donc on est rentré un peu dans une routinisation, donc pendant les vacances, peut-être qu'on ne peut pas accueillir parce qu'on n'est pas là, donc on va fermer la maison, etc. Et donc ça s'ajuste sans arrêt, effectivement. Et donc pour les associations, c'est très difficile d'avoir une stabilité des hébergeurs. Il y a toujours un élan comme ça de gens qui disent qu'ils veulent héberger, mais il faudra voir ce que ça donne sur la durée. Je pense que ça ne va pas forcément tenir très longtemps comme quelque chose d'important. De toutes les façons, sur le plan démographique, moi, ce que je dis aussi beaucoup, c'est-à-dire que c'est pas ça qui va résoudre le problème de l'accueil des migrants. C'est-à-dire, on confond quand même les pratiques hospitalières, l'hospitalité comme pratique domestique, privée, intime et un peu associative, avec des politiques d'accueil qui aussi bien du côté du droit, c'est-à-dire donner le droit, ne serait-ce que le droit d'hospitalité, c'est-à-dire le droit d'être là, quoi, à des migrants. Ça, ils l'ont toujours pas, les migrants, ce droit-là. Donc ils dépendent, effectivement, de la faveur qu'on leur donne en les hébergeant quelque part. Donc aussi bien du point de vue du droit que du point de vue des dispositifs d'accueil, on reste très, très en retard, très en retrait, très en retard en France.
On a parlé de politique tout à l'heure, mais il y a des courants politiques qui, eux, revendiquent un droit à l'inhospitalité et à le refus même de tout accueil. Et, bon, ton exposé ne portait pas là-dessus, mais tu as quand même certainement une opinion à ce propos.
Alors, c'est assez difficile. Moi, quand on veut être un peu dans l'écart et dans un décentrement par rapport à toutes les polémiques politiques, si, évidemment, on peut parler des gilets jaunes, et ma première réaction, c'était aux gilets jaunes, il manque un gilet de sauvetage, par exemple. On pourrait ajouter un gilet de sauvetage aux gilets jaunes. Mais après, j'ai un petit peu, comme tout le monde, un petit peu changé d'avis, et notamment en constatant que... Visiblement, parmi les gilets jaunes, quand on a fait le grand débat national, la question des migrants n'était pas en soi une question aussi problématique que ça. Les nouvelles tentatives de Macron de remettre le thème de la migration, certains collègues ont dit c'était juste pour faire un clin d'œil à la droite, c'était pas alors que ça n'a été relayé par personne, en tout cas par les gilets jaunes. Donc je pense que parmi les gilets jaunes, il y a des gens qui certainement ont pu accueillir des migrants chez eux. En tout cas, c'est mon hypothèse. Et peut-être qu'elle pourra l'emporter sur l'autre impression que j'avais au début, c'est qu'il manquait les gilets de sauvetage. La montée des extrêmes droites et de ce qu'on appelle les populismes, c'est une crise de la représentation démocratique. Je ne pense pas que ce soit... fondée exclusivement, uniquement sur la xénophobie. Tous les endroits où il y a eu, et ça on l'a vu dans un atelier qu'on a fait avec des maires et des élus municipaux et des gens des associations, dans des petits villages, des petites villes, il y a eu à certains moments, quand il y a eu l'arrivée de migrants dans les CAO, dans telle ou telle petite ville ou village, il y a eu quelques manifestations de l'extrême droite, en général assez peu nombreux, avec relativement peu de monde, mais surtout qui se sont terminés tout de suite. C'est-à-dire, dès que les migrants ont été là, et dès qu'une relation a été établie entre des gens des villages et des petites villes et les migrants, ces manifestations-là, elles se sont arrêtées du jour au lendemain complètement. Donc, en tout cas, s'il y a évidemment, il y a un discours nationaliste, xénophobe, etc., mais il ne se fonde pas réellement sur l'expérience, il se fonde sur des fantasmes, des peurs, etc. Et moi, j'aurais plutôt envie d'encourager les expériences, parce que justement, au bout d'un moment, les gens eux-mêmes qui étaient dans des manifestations contre l'arrivée des étrangers dans les villages se sont trouvés, au contraire, ravis... d'avoir des relations avec des gens nouveaux, différents, et ils sont tellement sympathiques. On en a entendu des choses, c'est incroyable, dans toute cette enquête qu'on a faite, tout ce qu'on a pu entendre comme déclaration de gens comme quoi « Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils, qu'est-ce qu'ils sont sympathiques, etc. etc. » Et la relation qui s'établit autour des associations qui se créent pour les aider, pour donner des cours de français, enfin, etc., etc., il y a eu une vie de village dans les Alpes, Barcelonnette, Briançon, en Pays Basque, en Bretagne, en Alsace. Donc moi, ça m'intéresse. Quand on regarde comme ça, on se dit, tiens, c'est quand même beaucoup les marges, les périphéries des régions périphériques de la France, où les gens qui se sentent un peu plus loin de l'État, qui ont fait ce genre d'accueil, de très bon accueil, parfois même en accueillant des gens en situation irrégulière, c'est-à-dire en se mettant eux-mêmes dans l'illégalité, avec l'histoire du délit de solidarité. Et donc, dans l'expérience réelle de cette relation avec les étrangers, je trouve que le courant politique d'extrême droite ou xénophobe n'a pas maintenu sa prise quoi sur les mentalités ou sur les personnes.
Bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai une petite question.
Oui, j'ai une question autre. Est-ce que la notion de la multilocalité s'apparente à l'anthropologie urbaine ou à la sociologie urbaine? Donc c'est une question un peu primitive, mais...
Vous parlez de la notion de multilocalité, c'est ça? Non, c'est pas... Oui, on peut l'aborder du point de vue de l'anthropologie en général. Oui, c'est plutôt urbaine ou pas urbaine, c'est pas tellement la question. Mais oui, on a aujourd'hui dans l'anthropologie une manière d'aborder les phénomènes migratoires, par exemple, en disant que c'est de la multilocalité, c'est-à-dire que comme il faut quand même que les gens soient quelque part pour pouvoir enquêter, pour pouvoir les trouver, passer du temps à observer, à rester, à parler avec les gens, les écouter, les enregistrer, etc. Il faut bien qu'ils soient quelque part. Et donc, quand on est dans la migration, on est plutôt dans de la multilocalité. Il y a pas mal d'anthropologues qui ont écrit là-dessus. Oui.
Merci beaucoup. Et encore bravo, Michel.